accueillir Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. I want to have you. Jean-Louis, voilà. Et aussi Patrick. J'ai oublié tout à l'heure dans les remerciements de remercier BD Fugue aussi qui a l'initiative de la soirée. Hein, une première question. L'initiative du projet, est-ce que c'est vous qui avez voulu les filmer ou s'ils étaient demandeurs pour montrer leur travail ouais.
Alors en fait...
ça marche.
En fait, un des trois réalisateurs qui est par là aujourd'hui se trouve être le frère de Jean-Louis et avait eu l'idée de suivre cette collaboration un peu atypique dans le monde de la bande dessinée. Donc, il a proposé à Philippe Ossel, comme on a vu tout à l'heure, la production d'un documentaire sur le sujet. Et après, j'ai été une pièce rapportée à ce projet, ainsi qu'Aveline qui a assuré le montage et qui est devenue co-réalisatrice. Donc voilà, c'est une idée de Dominique, le frère de Jean-Louis.
C'est ça. Il est au courant, je sais pas comment.
Dans la salle, des questions déjà?
Oui, ben, justement, pour enchaîner sur ce thème-là, le temps de la création, le film par exemple, et la BD de l'autre côté, est-ce que des fois il y a des contraintes qui sont difficilement compatibles? Est-ce que ça se passe bien de vouloir à la fois créer un documentaire et, alors que par ailleurs il se crée une bande dessinée? Comment ça s'articule tout ça?
En fait, on s'est un petit peu adapté à leur rythme. On a calé des différentes phases de tournage pour essayer de suivre leur propre évolution. Alors, il se trouve aussi que ils ont leur fonctionnement un peu atypique nous a facilité un petit peu la tâche puisque Jean-Louis peut être en train d'ombrer des cases dessinées par Régis bien plus tôt, ce qui fait que nous, dans nos phases de présence à Montréal, donc on a eu deux séjours d'une dizaine de jours. On a pu couvrir autant le travail de l'un que de l'autre, pas forcément sur les mêmes cases. On a essayé d'avoir des cases récurrentes pour bien voir le travail de l'un puis de l'autre. Mais globalement, en deux sessions de 10 jours, on a réussi à tout couvrir, et ainsi que le travail d'écriture du scénario. Donc voilà, on s'est adapté à eux.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, évidemment, le documentaire porte sur deux fois, combien? Deux fois 15 jours, vous êtes venus, c'est ça?
Deux fois 10 jours.
Et puis ensuite ils sont venus à Angoulême, à Saint-Malo, mais on voit pas d'image, mais en Belgique à tourner quand je suis chez l'imprimeur. Mais certain que nous on a travaillé 9 ans là-dessus, donc le temps de notre création à nous n'a rien à voir avec le temps que eux ils ont passé. Cela dit, ils ont réussi à couvrir à peu près toutes les parties du travail. Et donc, ça rend un compte rendu, enfin, ça rend compte assez fidèlement de ce que c'était que ce travail-là. Vous avez remarqué, on joue vachement bien, hein.
Ah oui.
On était bien dirigés, hein.
Et parfois, vous oubliez la caméra.
Ah oui, alors, justement, j'allais le dire pour répondre sur ce que dit Régis. Ce qui se passe, c'est quand même assez étonnant de voir comment, assez rapidement, on oublie la caméra. Il faut dire que donc, pendant les périodes où ils étaient là, ils filmaient quasiment 24 heures sur 24. Ils ont enlevé les images de nuit quand on dort, parce que c'est pas très intéressant. Mais donc, ils filmaient vraiment tout le temps. Et donc, voilà, on arrivait le matin à l'atelier, les caméras tournaient, et à un moment, ben, tu fais attention au début, tu le sais, et puis après, tu fais plus attention du tout, quoi. Donc, voilà. Puis nous, on n'est pas du genre non plus à poser, quoi.
Moins long, quoi. Vous l'avez remarqué, quand même.
On est assez spontané.
Hein. C'était rigolo, parce qu'on avait, sur notre table à dessin, enfin, il y avait notre table à dessin, on avait une caméra derrière nous, il y en avait une autre il y en avait une qui était sur le côté, un côté ou de l'autre, et puis il y avait un frangin qui, lui, filmait certains détails. Donc, au bout d'un moment, c'est comme des bouches, quoi, on n'y fait plus attention.
On avait un petit peu anticipé le fait que sur les premiers jours, notre présence serait palpable à l'écran. Donc, on a beaucoup tourné au début pour qu'ils s'habituent à nous, en sachant qu'on n'utiliserait probablement pas, et en sachant en revanche que vous habituerez à ça et que donc on utiliserait les rushs suivants.
Et c'est vrai que, par exemple, sur l'écriture du scénario, vous avez tourné un nombre incalculable d'heures.
Alors ça, c'est moi qui tenais, j'étais le seul à vouloir tourner le scénario, je sais pas pourquoi. Donc on a 40 heures d'écriture de scénario. pour autant, on a réussi à avoir les deux, trois moments où il se passe un petit truc, ou en deux phrases.
C'est con parce que c'est dans les deux premières minutes qui...
ouais, mais c'est important.
Donc j'ai une question pour les deux auteurs, savoir si effectivement vous avez vraiment un autre projet derrière, ensemble, également savoir si vous seriez intéressé pour faire la même chose, mais chacun avec quelqu'un d'autre, et de savoir également enfin si effectivement d'autres gens qui s'inspirent de ce que vous avez fait, d'autres couples d'auteurs ou trios, qui s'inspirent de ce que vous avez fait à votre connaissance.
Donc je pense qu'il y a trois questions.
Question exactement.
La première, le fait de travailler ensemble, à part Robin des Bois, on a abandonné le projet, hein, c'était une bêtise, évidemment. Mais, non, pas du tout, ça a été une expérience qu'on a voulu faire avec Jean-Louis. On pensait sincèrement qu'on mettrait 2 ans pour faire, nos 3 bouquins, parce qu'on pensait
qu'on en ferait que 3.
Voilà. On a mal pensé, ce coup-là. Et, ça fait quand même 9 ans, et puis bon, non, je sans en avoir assez, on a des projets, l'un et l'autre, qui se bousculent et qu'on aimerait faire. Donc, en fait, là, maintenant, on a mis un point final à notre collaboration en tant que collaboration graphique. Mais par contre, en tant que collaboration scénaristique, pourquoi pas? On a un projet et qui serait intéressant parce que ça s'est vraiment, vraiment bien entendu à ce niveau-là, quoi. On s'est marré.
Oui, ça a été la bonne surprise parce que, donc, effectivement, le point de départ, l'idée de départ que j'ai eue, c'était une collaboration basée sur une complémentarité supposée graphique qui effectivement était bien là, mais quand on a commencé à travailler sur le scénario, à découper, là, quand on était dans le vif du sujet, on n'avait aucune idée de la façon dont ça allait se passer, si ce n'est, comme dit Régis, qu'on avait décidé de mettre les égaux au vestiaire, donc voilà, mais on savait pas quelle... Or, la bonne surprise, c'est qu'on s'est trouvé très complémentaire sur ce terrain-là, parce qu'on n'a pas tout à fait la même façon d'appréhender l'écriture scénaristique. Régis a des manières de voir qui sont pas forcément les miennes et vice versa, et donc ça a été très très agréable d'être à l'écoute, en fait. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, de se mettre à l'écoute de l'autre et de voir qu'est-ce que l'autre pouvait amener dans la corbeille, quoi. Voilà, donc ça a été vraiment une très très bonne surprise. Et je pense que c'est une des raisons d'ailleurs qui explique le fait qu'on ait fait 9 tomes au lieu de 3, parce que on est allé creuser beaucoup plus profond que ce qu'on s'imaginait au début. Nous, on en parle beaucoup en ce moment parce que comme c'est fini, on donne beaucoup d'interviews et donc ça nous amène à approfondir notre réflexion sur. Enfin, notre regard en arrière, quoi, sur ce travail-là. Et en fait, on se rend compte que, et notamment grâce au retour qu'on a de la part des lecteurs, et du travail qui a été fait sur Magasin Général, parce qu'il y a une universitaire américaine qui fait en ce moment un travail universitaire, donc, sur Magasin Général, bon, qui nous a appris des choses qu'on n'a pas conscience d'avoir fait, donc. Mais tout ça, nous fait comprendre qu'en fait on a fait quelque chose de plus fouillé, de plus creusé, de plus épais, de plus dense que ce qu'on pensait faire au début. Voilà. Et ça, c'est vraiment dû à la complémentarité qu'on a eue sur le scénario, je pense.
Oui, oui, sûrement.
Chacun obligé à l'autre à aller plus loin. Alors ça, c'était la première question.
Vous imaginiez refaire ça avec un autre?
Enfin, moi non, pas du tout. Non, moi, avant tout, je suis un dessinateur, donc. En général, je dessine tout seul, hein, donc pas besoin de lui. Hein. Non, mais je plaisante, évidemment que... Non, c'est trop compliqué à gérer. Là, ça allait bien avec Jean-Louis, parce qu'on était parti sur ce principe-là, et puis qu'en fait, ça fonctionnait très très bien, mais je suis pas convaincu que ça fonctionne avec quelqu'un d'autre, et puis bon, ça va, c'est une expérience, moi je compte me renouveler, et puis je pense que Jean-Louis non plus. Quoi.
Donc, a priori, j'ai pas pensé, bon, moi j'ai pris du plaisir à, en fait, moi, crayonner, ça, bon, c'est la base de cette collaboration, mais c'est vrai que crayonner, moi, ça m'emmerde vraiment, quoi. J'aime pas ça. Et moi, j'ai longtemps fantasmé sur le fait d'avoir quelqu'un qui fasse mes crayonnés, mais c'est compliqué parce que
il faudrait avoir rien.
Et voilà, il faudrait avoir une espèce de connexion mentale très importante. Bon, là, j'ai trouvé, parce que c'était Régis, parce que je me suis dit que je pouvais faire quelque chose avec ses crayonnés à lui, et parce que j'aime sa façon de travailler et de découper, que bon, ça pouvait être une chose faisable. Le faire avec quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Il faudrait que je me trouve une autre monture, mais peut-être entre... bon, ben, moi... Non. Ah non, ça serait une catastrophe. Voilà, vraiment. Ouais.
Alors, c'est vrai que c'est une catastrophe.
Non, puis on a d'autres... Bon, il y a une chose qui change quand même, c'est que Régis, lui, ça n'a pas modifié... Le fait de faire Magasin Général n'a pas modifié sa façon de travailler. J'ai juste arrêté un peu plus tôt. Alors que moi, j'ai travaillé pendant 9 ans à partir d'un dessin qui n'est pas le mien. Donc aujourd'hui, je ne sais même plus comment je dessine. C'est un mystère. Je vais élucider ça bientôt, parce que là, je n'ai pas redessiné depuis qu'on a fini le tome 9. Mais bientôt, je vais reprendre un papier, un crayon, et puis je vais voir qu'est-ce qui sort, sachant que, pour moi, c'est le bon moment, précisément, pour faire une espèce de révolution. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de passer à autre chose que la bande dessinée mainstream, c'est-à-dire de me mettre au roman graphique. Ça fait vraiment longtemps que j'y pensais. C'est le roman graphique qui m'a donné envie de recommencer à faire de la bande dessinée après 12 ans d'interruption. Donc, voilà. Là, c'est le moment. Je vais faire ça. Mais pour faire du roman graphique, il va falloir que je trouve un dessin beaucoup plus simple que celui que j'avais avant. Donc, c'est... me posera moins de problèmes, a priori.
Avec moins de canards et de
poules. Avec voilà, non, mais là, je vais supprimer, éliminer les canards et les poules. Il n'y en aura pas.
J'en mettais partout. Ah, j'adorais faire ça.
Voilà. Puis, c'est tout, là, ça y est, c'était les trois questions, c'est bon.
Bonsoir. Moi, j'ai une question plutôt sur la réalisation du film. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des dizaines d'heures sur le scénario. Au total, vous avez peut-être des centaines d'heures de tournage de rush, et ma question c'est selon quels critères vous faites les choix pour le montage, parce que finalement 50 minutes sur ces centaines d'heures c'est rien quoi. Donc ma question c'est comment vous choisissez les rushs pour les mettre dans le film.
En fait ça a été un travail assez lourd de tout filtrer. C'est là aussi qu'on a eu le gros avantage d'être à trois co-réalisateurs, donc on s'est un peu réparti le travail, chacun regardant une partie des rushs, à beau temps, les plans qui sont bien, pas bien. Bon, il y a des plans qui s'éliminent tout seuls, parce que techniquement, pas hyper intéressant. Et après, il y a eu un gros travail de structure sur le film. On voulait quand même raconter quelque chose, parce que dans les faits, on a des cassettes avec deux personnes qui dessinent. On a surtout ça. Donc on voulait d'abord autant que possible trouver des cases dessinées par l'un et par l'autre pour que le public puisse voir la continuité de leur collaboration. Donc déjà ça a éliminé pas mal de ce qu'on avait filmé puisque ils n'étaient pas forcément en phase, l'un ne reprenait pas systématiquement le dessin de l'autre pendant notre présence. Donc voilà, ça s'est un peu resserré comme ça, et puis voilà, après un gros travail sur la structure pour pas être trop redondant, pour pas raconter plusieurs fois la même chose, même si c'est un petit peu le cas. Enfin, on va dire qu'il y a deux moitiés dans le film. Enfin, deux fois on revoit le travail de l'un puis de l'autre, sauf qu'on a essayé de l'entrecouper depuis un tas de séquences à Angoulême, chez l'imprimeur, avec Jimmy Beaulieu pour l'adaptation des dialogues. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est structuré.
Moi, justement, c'est ce dont je voulais parler, c'est les dialogues. Parce que quand même, en fait, quand j'ai lu la BD, ce qui met l'ambiance, en fait, vraiment, quoi, c'est la langue. Et ce que je n'ai pas vraiment compris, c'est comment, sur le papier, on entend comme qui parle. Et ben, voilà.
Ouais, c'est sûr que... Ça a été un élément important. Bon, on a eu un débat au début à propos de ça, parce que moi, je...
J'étais plus nuancé. Oui. Donc, j'avais peur que le lectorat français ne comprenne pas cette parlure québécoise qui, quand elle est écrite, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais plus soft.
Et moi, je vous ai fait confiance. Et donc, voilà, je pensais que...
Non, mais j'aurais bien voulu... lis, hein, la crémière, là, je vais pas en fait, là. Sa version, quoi.
Il s'est dit que tu chauffes, quoi.
Ouais.
Il s'est dit que tu s'échauffes.
Alors, en fait, la position qu'on avait par rapport à ça, je pense, elle est très simple, c'est qu'on n'a pas la même histoire, Régis et moi, par rapport au Québec, et que Régis est arrivé au Québec un petit peu par hasard, en faisant tourner le globe et en mettant le doigt dessus, puis c'est tombé sur Montréal, hein, c'est presque ça.
Presque.
Bon. Alors que moi, j'avais une longue histoire, déjà, par rapport au Québec, où, quand je suis allé habiter là-bas, c'était là. Enfin, quand j'ai retrouvé Régis, en fait, là-bas, c'était la 6e ou 7e fois que j'y allais. Donc, bon. Donc, pour moi, il était même pas envisageable de faire, à partir du moment où on avait décidé que cette histoire se passait au Québec, et ça, on a adhéré, enfin, Régis a adhéré tout de suite quand j'ai proposé ça, il était même pas envisageable de les faire parler autrement qu'en québécois. Bon. Alors, après, effectivement, moi-même, j'étais conscient qu'on pouvait pas en faire trop, et qu'il fallait trouver un moyen terme, l'arrivée de Jimmy a été, enfin, le fait de faire entrer Jimmy, parce que, en fait, on a, quand on travaillait sur le scénario du tome 1, peu de temps avant, non, mais pendant qu'on travaillait sur le scénario du tome 1, il s'est passé quelque chose, c'est que, il y a une auteure de polar française qui s'appelle Fred Vargas, qui avait fait un bouquin qui s'appelle Sous les bandes de Neptune, dont une partie se passe au Québec. Et alors, elle a inventé complètement une espèce de Québécois assez fantasmé, et elle n'a pas du tout pris la précaution de se faire relire par un Québécois. Et donc, quand le bouquin est sorti, alors évidemment, personne n'a vu ça en France, mais au Québec, ils étaient tous morts de rire, et donc pendant... et en même temps, offusqués. C'est-à-dire, ils étaient peu vexés que l'on... Voilà, on n'a pas pris la peine de s'enseigner mieux que ça. Et donc, pendant un mois, à longueur d'antenne sur Radio-Canada, il se faisait pourrir littéralement par... bon. Et là, on s'est dit nos peurs. Nous, faut pas que ça nous arrive. Donc, voilà, d'où l'idée de faire entrer Jimmy. Et ça, ça a été formidable, parce que lui, il a amené vraiment une justesse dans la nuance, bon, voilà. Et puis, il nous a permis de trouver le bon niveau, quoi. Parce que lui-même, il est quand même, cet auteur de bande dessinée qui connaît bien la France, il y a vécu en résidence, il vient souvent, etc., etc., il connaît beaucoup de, donc, voilà, il sait à peu près aussi, d'un point de vue québécois, qu'est-ce que les Français sont capables de prendre ou pas. Bon, voilà. Mais, il est certain que, moi, je pense que c'était effectivement indispensable, et que ça contribue, oui, moi j'aime beaucoup ce langage-là.
Parce qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés à le dire, qui ont heurté sur certains mots, non, personne. Bon.
Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que donc on a commencé assez bas, ouais, dans les premiers tomes, par exemple dans le tout premier tome, le fameux double tu. On n'a pratiquement pas mis, je crois, une fois. Et puis, on s'est rendu compte que ça passait bien. Donc, on est monté un petit peu en puissance, jusqu'à peu près vers le top 4-5, je pense, à peu près. Et après, c'est relativement stable. Et donc, moi, ça me gênait quand même le fait qu'il y ait ce décalage, comme ça, sur l'ensemble de la série. Et que l'année dernière, entre le tome 8 et le tome 9, j'ai repris tous les dialogues depuis le début. Et j'ai tout remis au niveau des derniers tomes. Ensuite, donc, vraiment, c'est sur les 8 tomes précédents. Ensuite, Jimmy... Alors, attendez, oui. Donc, Jimmy a relu tout ça. Donc, on a recalibré tout ça pour le mettre de façon cohérente, quoi, sur l'ensemble de la série. Et en même temps, j'en ai profité pour intervenir sur deux choses qui étaient les sacres. Alors, les Québécois, donc, ce qu'on appelle les sacres en québécois, hein, c'est les gros mots. Ils sont tous en liaison avec l'Église, et donc je trouvais qu'on avait été un peu pauvre là-dessus. On utilisait toujours les mêmes 3-4 comme ça. Or, c'est beaucoup plus riche que ça, et donc j'en ai réintroduit d'autres comme ça. J'ai diversifié un petit peu le truc. Et puis on avait eu sur les textes off de Félix, hein, le mort, la voix off du mort. Comme on travaillait album par album, il y a des moments où on se posait la question de savoir si c'était pas un peu redondant, et on n'avait pas une vision d'ensemble. Donc là, ayant fini, c'était plus facile de retravailler ça un peu plus, de lisser ça un petit peu. Et alors après, une fois qu'on a eu fait ça,
il a fallu que je me tape toutes les corrections. J'avais 420 pages à...
480.
480, là on compte plus. Donc j'ai passé un mois à refaire le texte, puisque c'est moi qui fais les lettres. La calligraphie. Voilà.
Alors, voilà. Vous avez vu comment il réagit quand je lui dis qu'il y a un dessin qui ne va pas. Vous imaginez la diplomatie dont j'ai dû faire preuve pour lui faire accepter l'idée qu'il allait y avoir 480 pages à refaire. J'y suis allé très progressivement, avec beaucoup d'amour et de...
Non, ça va, ça y est, en fait, tout quand je fais ça. On ne recommence plus, là.
Non, c'est fini.
Bonjour. Je voulais savoir s'il y a un lien entre le fait que le film dépeigne une collaboration dessinée et le fait qu'il y ait trois réalisateurs et comment vous vous êtes réparti le travail.
Alors, c'était, dans les faits, c'était pas une intention que de calquer notre fonctionnement sur le leur. Et concrètement, c'est un peu ce qui s'est passé puisque, au même titre que François Lapierre, le coloriste, est devenu un auteur à part entière de magasin général, Adeline, qui était notre monteuse, s'est investie et a apporté suffisamment pour qu'au bout d'un moment, on se dise, elle est tout aussi, à l'initiative, enfin, tout aussi réalisatrice de projet que nous l'étions Dominique et moi. Après, dans la répartition des rôles, il se trouve que Dominique, au départ, et donc qui n'est pas là, qui est en train de filmer France Fidji, est un cadreur, c'est quelqu'un qui filme, chose que moi je ne fais pas. Et Adeline est une monteuse et elle ne filme pas. Donc dès le départ, on avait une répartition technique qui était établie. Donc si je filme pas et si je monte pas, on peut se demander ce que je fais. Ben je fais le reste. Et en l'occurrence, j'ai essayé un petit peu de structurer notre travail à tous et voilà, et de donner un petit regard extérieur à tout ce qu'on faisait au quotidien. Donc typiquement le soir, quand on rentrait de tournage, on se faisait une réunion avec Philippe, le producteur, et on regardait ce qu'on avait tourné, pas tourné, les questions qui avaient été posées, pas encore posées, celles qu'il allait falloir poser. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est réparti. Donc dans les faits, au total, on s'est un petit peu retrouvé dans une collaboration un peu équivalente à la leur.
Et bonjour. A priori, vous travaillez dans un atelier en commun. Est-ce que c'est la collaboration pour cette BD qui a fait que vous êtes bien travaillé dans un atelier commun, ou est-ce que c'était déjà comme ça avant?
On repassait le film.
Ouais.
On le dit au début du film. En fait, c'est parce qu'on travaillait
dans le même atelier que je me suis rendu compte qu'on était complémentaires. Puisque j'entendais Régis qui râlait depuis son atelier quand il finissait ses planches, les trucs d'ancrage, etc., etc. Alors que moi, je me disais, mais pourquoi il râle, c'est vraiment le truc le plus agréable. Bon. Et moi, par contre, j'accourais dans son bureau chaque fois que je commençais une planche en disant... Voilà. Et donc, tout ce qui est facile pour lui, c'est ce qui est difficile pour moi, et vice-versa. Voilà. C'est donc de là qu'est née l'idée de collaborer graphiquement. C'est ça le point de départ.
Mais après, évidemment, il fallait trouver un terrain d'entente pour raconter l'histoire, parce que d'avoir une idée comme ça, de collaborer sur le graphisme, c'en est une, mais raconter une histoire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va raconter. Donc évidemment, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que Jean-Louis m'a demandé si j'avais des commandes et scénarios en réserve, je lui en ai raconté quelques-uns. Là, je voyais terrasser vraiment. J'ai dans moi des trucs fantastiques, oniriques et...
Il y avait des bestioles qui volaient partout, voilà. C'était terrible.
Donc, ok, bon, j'ai dit, bon, et toi, t'as des scénarios, donc il commence à me raconter des trucs, il y avait des voitures partout, il y avait des
scénarios
partout,
terrible.
C'est de la politique partout, donc, je crois qu'on va pas pouvoir, on en reste là. Et puis, quelques jours après, Jean-Louis évoque le nom de Frank Capra, parce qu'on parlait de paroles d'angle, de cinéma, bref, je sais plus exactement.
Oui, c'est ça. Tu vois.
Frank Capra, je pense que vous connaissez tous Frank Capra, la Gabelle, Jusso Smith au Sénat, etc.
C'est Miguel Dantel.
Oui, non, c'est Miguel Dantel, donc un cinéaste formidable des années 30, qui vraiment avait la particularité de faire des films très, très positifs. Vraiment, c'était le bonheur des petites gens et c'était vraiment très agréable à regarder. Alors, vous avez tous vu, non?
D'accord.
Et donc, à ce moment-là, je lui dis, mais comment ça se fait que je t'ai pas parlé d'une idée que j'avais qui s'appelait à la Capra. Donc c'était l'histoire de, c'était l'histoire initiale de Marie avec son
mari,
avec son mari qui venait de mourir. Il y avait effectivement, c'était un petit village, mais ça se passait en France à ce moment-là. Et donc c'était perdu entre les années 30 et 50. Et puis, il y avait tous les ingrédients au niveau des personnages, quoi. Toute cette petite communauté, mais qui n'avait pas la couleur qu'on lui a donnée, là, parce que Henri, à un moment, il me dit, mais, ah ouais, super, il était très content de l'idée, on avait trouvé un terrain d'entente à ce niveau-là. Et, Jean-Luc me dit, mais pourquoi on l'a fait pas au Québec? Puisqu'on est plutôt au Québec, on aura la documentation à portée de main. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait cette histoire au Québec. Et effectivement, le fait de le faire au Québec, ça a changé toute la problématique de l'histoire, à savoir que il y a des saisons qui sont bien différentes de qu'en France, c'est-à-dire que l'hiver dure à peu près
4 mois, plus de 2 mois de transition, voilà, c'est ça, avant et après.
Donc ça change le rythme, mais surtout que pendant cette période, les hommes au Québec, à l'époque, partaient au bois pour bûcher, pour jouer le bûcheron dans les compagnies forestières. Donc pendant toute cette période, les hommes quittaient le village et ne restaient que les femmes, les vieillards et les enfants et certaines personnes, genre le cordonnier, le maréchal Ferrand et le curé, et puis bon, les gens qui étaient...
Les vieux, ceux qui ne pouvaient pas aller bosser. En fait, ils faisaient ça pour une raison très simple, c'est que c'était des maisons, des vies qui étaient très autarciques. Chaque ferme avait une vache, 3 chèvres, et un cochon, etc., etc. Donc, ils avaient un potager, ils avaient quelques champs, et donc ils produisaient à peu près tout ce dont ils avaient besoin pour manger, mais dès qu'ils avaient besoin d'objets manufacturés ou de choses qu'on ne pouvait pas avoir sur place, il fallait qu'ils aillent au magasin général, mais ils n'avaient pas d'argent pour ça. Donc, ils faisaient une ardoise au magasin général, et puis l'hiver, puisque de toute façon ils ne pouvaient rien faire, et c'était l'hiver, c'était à l'intérieur et c'était des travaux de couture, donc l'hiver, les hommes qui servaient à rien dans la maison partaient travailler dans mais des fois à l'autre bout du Québec, hein, ils partaient loin et ils allaient travailler donc sur les chantiers forestiers de grandes compagnies qui appartenaient à des Anglais évidemment, et là ils gagnaient, alors c'est une vie dure, hein, inutile de vous le dire, mais ils gagnaient de l'argent, du cash. Et donc, des fois, il y avait 3-4 hommes de la fête, c'est-à-dire le père et les 3 ou 4 enfants les plus grands partaient au bois. Et quand ils revenaient, évidemment, ils avaient amassé un petit pécule. Et la première chose qu'ils faisaient, c'était d'aller au magasin général pour régler l'addition. Et là, après, on recommençait une autre ardoise quand l'argent était épuisé jusqu'à l'année d'après. C'est comme ça que ça marchait. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison-là que quand il y avait un homme ou plusieurs qui pouvaient plus, parce que soit qu'ils étaient trop vieux, soit qu'il y avait eu un accident, soit qu'il y avait eu une maladie, enfin n'importe quoi, qui faisait que les hommes ne pouvaient plus aller travailler, ben, ils ne pouvaient plus payer, et à ce moment-là, le propriétaire du magasin général récupérait la ferme, devenait propriétaire de la ferme, et c'est comme ça que les propriétaires des magasins généraux étaient les grosses fortunes de régionales. Parce que des fois, ils récupéraient quelques dizaines de fermes dans leur carrière. Voilà.
Et vous avez en partie répondu à ma question, mais j'aimerais ça que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez construit le scénario petit à petit. Là. À partir de l'histoire que tu viens d'expliquer, vous avez construit des choses, et puis comment est venu l'idée de Serge, comment est venu...
Ça c'était dès le début, mais en fait, les éléments, à partir du point de départ de Régis, on a tout de suite, bon, moi, quand je suis arrivé là-dedans, et donc, il fallait que je m'approprie ce scénario-là, donc on a commencé à voir, à partir de là, comment on pouvait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait développer, quoi. Et donc, on a trouvé très rapidement ce qu'on appelle l'arc narratif, quoi, c'est-à-dire le point de départ, le point d'arrivée, et les nœuds principaux c'est-à-dire l'arrivée de Serge, au début d'ailleurs, on ne savait pas, Serge était pas homosexuel dans la première version, non, tout à fait au début.
Ah, non,
tout à fait au début, c'était un noir. Bon. Et, donc, voilà. Ça faisait trop visible, surtout en l'occurrence. C'est-à-dire que, rien, et en plus rien ne l'aurait empêché de finalement d'être avec Marie. C'était, voilà, donc nous ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait vraiment une impossibilité qui fasse que Marie soit amenée à, après à partir sur d'autres chemins, quoi. Donc tous ces trucs-là sont des trucs qui sont développés dès le début, mais dès qu'on avait fini le synopsis, on avait l'arc narratif de vraiment complet. Bon.
Et puis une idée en avait une autre, ainsi de suite. Par exemple, l'arrivée de Serge, elle arrive parce que les hommes sont pas là, donc forcément, ça sous-entend que les hommes vont revenir. Donc quand les hommes reviennent, eh ben, c'est vrai que ça change la donne, parce que les mecs, ces hommes-là se posent la question de savoir que cet homme-là, bien mis de sa personne, était un petit peu comme le renard dans le poulailler, donc ils ont commencé à voir ça d'un mauvais œil. Le fait aussi que Serge, s'emmerdant dans le village, on s'est dit il faut quand même qu'on lui fasse faire quelque chose qui se rende utile.
Pour l'ancrer.
Donc voilà, pour lui donner un rôle, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire un restaurant. Bon voilà, il monte un petit restaurant pour faire plaisir aux gens, parce que Serge, quand il arrive dans le village, il amène cette notion du plaisir. Enfin, ce plaisir gastronomique, mais un plaisir quand même que tous les villageois et Marie y compris n'étaient pas du tout n'étaient pas habitués, quoi. À cette époque-là, on vivait, mais le plaisir c'était mis à l'annexe, quoi. Hein. C'était pas.
Il y avait quelques fêtes, mais c'est tout. Hein. C'était au quotidien, c'était pas rigolo. Hein.
Alors tout ça,
surtout, c'était une société très catholique, et donc le plaisir c'était un péché, donc c'était vraiment pas bien, quoi.
Alors, lui, il arrive avec la pour dire que c'est un processus de narration et de scénario, c'est-à-dire que une idée amène une autre, et puis donc il y a une question qui se pose, il y a une réponse qu'on doit donner, donc on doit raconter quelque chose. Dans cette réponse, il y a l'amorce d'une autre question, et puis ça va comme ça, ça rebondit, les idées se rebondissent. C'est vrai que le fait de travailler à deux, ça va beaucoup plus vite, parce que quelquefois, Jean-Louis avait une idée qui est « Waouh, super, ça va nous amener là ». Tantôt, c'était une impasse, tantôt c'était moi. Enfin, ouais, alors, c'était vraiment un travail formidable. Le scénario, pour nous, ça a été une vraie récréation, quoi.
Bien. Alors, c'est vrai que dans le synopsis de départ, des fois, il y avait des trucs qui étaient indiqués en deux lignes, et qu'ils ont pris après. Et après, il faut développer. C'est-à-dire, il faut rentrer dans le détail de pourquoi, par exemple, on savait, on avait écrit que donc Marie, à un moment donné, allait faire quelque chose qui allait faire qu'elle allait se trouver en opposition avec les femmes du village, après que Serge était en opposition avec les hommes, parce qu'on voulait avoir ce mouvement de balancier, là. Et puis, donc, ça prenait deux lignes dans le scénario, puis quand on a commencé à creuser, à chercher, ben, t'es arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'elle couche avec quelqu'un du village, avec qui elle n'était pas supposée le faire, mais comment on amenait ça, donc, ça un peu, comme ça, un peu par hasard, là, dans le moment. Mais alors après, commence à développer la suite, donc les femmes,
les réactions,
les deux personnes concernées commencent à mal réagir, etc., etc. Et puis on arrive à un point où on se dit, ben là, maintenant, la seule solution, c'est que Marie parte, parce que sinon on n'arrivera pas à s'en sortir. Bon, c'est-à-dire donc partir très bien, parce que comme ça, quand elle va revenir, elle va assumer le changement. Bon, et ben ce truc-là, ça nous a pris deux albums et demi. Montréal, plus Ernest La Tulipe après au retour, enfin bon, bref. Donc, voilà. C'est, puis deux gros albums.
Et c'est ce que j'aurais bien aimé qu'on arrive à capter dans le documentaire, cette joute entre vous deux et la capacité à étoffer deux petites lignes de synopsis pour en faire un scénario. Et on l'a, tout ça on l'a filmé, mais si on avait voulu le monter, on aurait eu un quart d'heure sur la séquence et le scénario parce que c'est vraiment le fruit d'échanges qui durent des jours et des jours, de fausses pistes et de pistes hyper avancées, puis totalement abandonnées du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça qu'on avait beaucoup tourné, mais on n'a pas beaucoup monté.
Et quand on était ensemble, la première chose qu'on disait, quand on commençait à arriver sur une espèce d'impasse, enfin, c'est pas aussi facile que ça, hein, de mettre au point un scénario, alors, les fois, on était là, on se regardait, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut là faire? Il y en a un qui se voit mieux que moi. Notre phrase, c'est de dire, bon, je vais peut-être dire une connerie, là, mais, que ce soit lui ou moi, on raconte notre connerie. Enfin, une connerie, quand on dit une connerie, c'est quelque chose, c'est une petite, un petit fil conducteur, une petite anecdote, une petite situation, c'est rien, mais pour nous, ça pouvait déclencher, ça pouvait dénouer un nœud en un claquement de doigts. Mais c'est vrai que mais par moments, c'était pas aussi évident que ça. Et puis même dans une connerie, il y a toujours quelque chose à récupérer. Alors, bon, c'est moi qui dis la connerie.
Pas toujours, hein, mais enfin, souvent.
Souvent. Jean-Louis disait, oh, bon. Ah, mais attends, mais effectivement, s'il fait ceci et qu'il fait cela, on peut récupérer, on peut mettre cet élément-là dans la connerie que je venais de raconter. Et puis c'était, ça sera une petite scénette qui était formidable. Quoi.
Mais ça, c'est important parce que, en fait, ça veut dire le fait de pouvoir s'autoriser à dire des conneries, ça veut dire qu'on a confiance dans l'autre, on a confiance qu'on ne va pas être jugé. Et on a confiance qu'on va pas être jugé, notamment parce que l'autre nous fait confiance sur le plan professionnel. C'est-à-dire que même si je dis une connerie, ça veut pas dire que je suis nul, quoi, en gros. Et ça, c'était vraiment important, parce qu'on l'a fait tout le temps, dès le début, on n'a jamais été dans cette peur de « je vais pas dire ça parce qu'il va penser que je dis une connerie, bon, quoi, je suis con ». Donc, voilà. Et ça libère la possibilité de ce jeu de ping-pong, là, comme ça, qui peut à certains moments être vraiment formidable, quoi. Voilà.
Comment s'est accueilli au Québec,
Madira? Ah, très très bien. Il y a eu un gros buzz au moment de la sortie du premier album, parce que ils étaient très étonnés que ce soit deux Français qui leur racontent leur histoire. Et qu'en plus, ils puissent rien dire, parce que d'un point de vue de la langue, c'était pas correct. Et puis c'était documenté, c'était voilà. Donc ils ont ça marche bien. Ils aiment bien. Et alors particulièrement quand on donne ça à des personnes d'un certain âge, alors là c'est le bonheur, quoi, parce qu'ils ont l'impression de revivre leur enfance. Donc globalement, ça n'a pas tellement changé entre les années 20 et les années 50. Donc voilà, ils aiment beaucoup en général.
Je crois que tu nous avais dit à l'époque que dans les écoles, il y avait des profs qui faisaient dire la BD à des élèves.
Oui, il y a des cases dans des livres scolaires. Oui,
bonsoir. J'aurais voulu savoir si la bande dessinée avait été traduite en anglais pour le reste du Canada.
Ça sent bien. C'est dans les tuyaux. Là. On est il y a un éditeur qui est intéressé, donc voilà. On voulait pas que ça se passe plutôt que ça, parce que le marché
développe. Parce que en fait, les marchands anglophones, faut que ça dépote, et en général, ils font des qu'on appelle un intégral. Et donc nous, tant qu'on n'avait pas fini, c'est pas la peine de les mettre en attente, parce que ça pourrait pas fonctionner. Quoi. Donc maintenant que tout est terminé, ils vont pouvoir sortir soit un intégral, soit deux ou trois volumes, et là ça pourra éventuellement intéresser le public anglo-saxon, mais ce qui m'étonnerait quand même, parce que ils sont quand même assez rébarbatifs sur la bande dessinée, parce qu'il y a les comics qui se passent aux États-Unis, les mangas au Japon, et la bande dessinée qui se passe en Europe, et ils sont absolument pas habitués à lire notre manière de raconter une histoire, d'avoir des cases un peu sage par rapport à eux, où ça passe dans tous les sens. Et puis, donc, ils sont un peu hermétiques.
Ouais, il y a une bande dessinée quand même, il y a une bande dessinée en Amérique du Nord qui est issue de l'underground, des auteurs indépendants, comme certains qui sont pas, des éditeurs indépendants, plutôt qui sont pas chez les gros éditeurs d'ici, et puis Marvel, qui donc ils font pas du super-héros, mais nous on n'est même pas là-dedans, parce qu'on est quand même dans encore autre chose, parce qu'on a quand même des codes aussi franco-belges, enfin bon, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, on va voir.
Je sais pas, juste pour un exemple comme ça, moi j'ai eu l'année dernière Peter Pan qui a été l'intégrale, donc Peter Pan qui a été traduit en anglais. Le gars, il en a vendu 1000 copies péniblement, quoi. Vous voyez, je pense que ça les intéresse pas encore. Ça ne veut pas dire que c'est intéressant, mais il y a pas cette curiosité.
Peter Pan, il pense qu'il connaît.
Je sais pas, ouais. Ou alors, ils ont
cru que c'était la version de Walt Disney.
J'ai une question. Vous évoquiez Frank Capra comme source d'inspiration, et je me demandais, est-ce que vous pensez que cette BD pourrait être adaptable au cinéma, et éventuellement partir, peut-être pas des anglo-saxons du coup, mais par des francophones?
Alors, c'est dans les tuyaux.
Beaucoup de choses dans les tuyaux.
C'est au tout début des tuyaux, là, vraiment. Donc, oui, il y a eu un premier projet qu'on a laissé filer il y a quelques années parce que c'était comment il s'appelle réalisateur
Rémi Besançon
qui voulait faire quelque chose avec ça, mais lui il en fait il avait fait le tour des gros producteurs français, donc UGC et puis Gaumont, et les deux voulaient pas de film à accent. Donc, il nous avait dit pas d'accent, donc ça voulait dire qu'il ne fallait pas que ça se passe au Québec, parce que c'était pas possible d'imaginer que ça se passe au Québec sans accent, pour le coup, là, vraiment, pas possible. Donc, il fallait sortir ça. Alors, on avait imaginé que ça se passait dans un pays imaginaire, enfin bon, dans les Vosges. Non, ça, on avait abandonné.
Vous avez du bois, non ?
Ouais, non, mais ça, on y avait pensé à un moment, mais on avait abandonné pour une simple raison, c'est que la période, il y a des guerres tout le temps en France à ce moment-là, dans cette période-là, et c'est trop marqué par le fait qu'il y a des guerres ou qu'il y a après la guerre de 14, il y avait plus d'hommes valides dans les villages, donc il y avait ça marchait pas, quoi. Donc on avait décidé de le faire dans un pays c'était une fois, quoi. Bon, mais ça nous emballait pas trop. Et puis là, il y a des producteurs qui sont venus au mois de janvier, là, on les a rencontrés la première fois, et qui eux nous ont proposé tout de suite exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire une coproduction franco-québécoise, donc avec beaucoup d'acteurs québécois, en travaillant sur le niveau de l'accent, hein, mais quand même, voilà, un peu que ce qu'on a fait dans le magasin général. Et puis, que nous, on soit associés au scénario, ce qu'on voulait aussi. Et puis, la troisième chose,
en deux films.
Voilà, le faire en deux films. Parce que nous, on pense qu'en un film, c'est très compliqué, quoi, qu'on va y laisser des plumes, donc faire deux films, un peu comme... Jean de Florette en des sources, quoi, quelque chose comme ça. Voilà. Le problème, c'est que là, ils nous ont présenté récemment. Alors, ils n'ont pas réussi à trouver de réalisateurs québécois disponibles. C'était la première étape, c'est déjà de pouvoir voir si on peut produire le film, trouver les sous, et donc avoir un montage avec le réalisateur Hank Wall et les deux acteurs principaux, quoi, pareil. Donc, Serge et Marie, au moins. Donc il faut d'abord trouver le réalisateur, et là, les Québécois qui sont connus en France, tous ceux qui ont fait des succès en France, ils sont à Hollywood maintenant, donc c'était pas possible. Et du coup, ils nous ont présenté il y a pas longtemps, là, il y a un mois, un réalisateur français qu'on connaissait pas. Alors je vais pas citer son nom, parce qu'on est allé voir, enfin moi je suis allé voir... Je savais pas ce qu'il faisait, donc je suis allé voir des films à lui et j'ai pas réussi à en finir un, donc on s'est dit que ça allait pas être possible, quoi. Voilà. Donc là, on cherche. Alors moi, je serais assez, à partir du moment où c'est un Français qui réalise, ça ouvre beaucoup plus de possibilités, et moi, j'aimerais beaucoup que ce soit une femme qui le réalise.
Oui, voilà. Je pense que c'est très bien, une Fontaine ou...
Alors, on pense en Fontaine, fantasmatiquement, là. Mais après avoir vu Gemma Bovary, moi je me dis que ça pourrait le faire.
Le Sol Vélan, c'est pas aussi, qui avait fait une femme du
Sol Vélan. Ouais, mais je suis plus simple peut-être, moi, mais bon.
Il y a Philippe Falardeau aussi.
Philippe Falardeau, oui, mais je sais pas, il y avait un truc qui marchait pas aussi, c'est ça.
Si j'ai bien compris, quand vous fonctionniez, c'est vous, Monsieur Loisiel, qui faisiez le crayonné. Et ensuite, ça passait chez vous. Est-ce qu'il vous est arrivé, d'après le film, vous étiez dans deux bureaux différents, en visuel. Est-ce qu'il vous est arrivé, là, pendant ces 9 années, compte tenu des particularités graphiques de Trip, de lui faire des blagues, en préparant le crayonné, d'attendre avec impatience
des hurlements, des petites anecdotes, des petits objets un peu bizarres et que je ne décrirai pas ici. Ou des petits, je sais pas, notamment, par exemple, les petits animaux qu'on voit de temps en temps qui se sont rajoutés d'une manière tout à fait, comme ça, au hasard. C'était pour faire un petit peu de l'animation dans les images. Alors, quelquefois, je disais un canard, un Donald, dans machin. Alors, il voyait pas, il faisait sa photocopie, et puis, quand il est arrivé sur le sujet, il dit, qu'est-ce que c'est que
ça? Oh, lui, des meubles qui criquaient dessus. Toutes sortes de niaiseries comme ça.
Dans la chambre de Marie, j'avais faim de licher. À côté de ses
subies. J'avais vu au dernier moment, j'avais commencé à le décalquer d'ailleurs. Alors il attendait évidemment impatiemment que je vienne dans son bureau pour lui dire, mais là.
Ouais. Mais après, en fait, on a travaillé combien de temps? 3 ans, à peu près?
Plus 4 ans.
3, 4 ans à l'atelier. Ensuite, Jean-Louis, chez Maison, il a préféré travailler, pour des raisons beaucoup plus, d'abord une, parce qu'il s'est fait virer par quelqu'un d'autre. Par un dessinateur qui avait pris place dans l'atelier.
N'importe quoi.
Lui-même en avait viré 2 autres avant. Moi, j'ai merdé, c'est pas mon problème.
Et j'ai continué à venir quand même un hiver ou 2 hivers. Hein. Je restais l'été chez moi. Enfin, bon, c'est pas très intéressant.
Non, 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 en fait, c'est pour dire que pendant les 4-5 derniers
mois, il
les a fait chez lui. Ouais. Moi, je faisais ma partie. De temps en temps, c'était moi qui allais le voir pour lui remettre les photocopies en question. Tantôt, c'était lui qui venait à l'atelier, c'était un moyen de se voir. Puis voilà, quand on se téléphonait, ou quand il y avait un petit problème...
Alors, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, il faut dire. Enfin, c'est pas des kilomètres.
Non, non, c'est 3 kilomètres.
Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est facile.
Grosso modo,
ça
fait un album, une année.
Oui, sauf le dernier. On en a fait 2 la première année. Et puis, parce qu'on était parti quand même bien en tête, on voulait en faire 3 en 2 ans. Donc,
expédier ça vite fait.
Et puis, et finalement, donc après, on en a fait 1 par an, et sauf le dernier, parce que le dernier est un double, hein, il fait 120 pages, donc il est pratiquement un double album, et on n'avait pas le temps de le faire en 1 an. Quoi. Donc voilà, puis on ne se voyait pas faire un album de 120 pages sur le rythme sur lequel on faisait un album de 60, parce que ça aurait été normal. Quoi. Voilà, donc,
dans les BD, on voit régulièrement des espèces de cartes postales, des pages coupées en 6. Comment vous en êtes venu à inclure des images qui apportent au récit juste par le quotidien en fait, des personnages sans faire avancer particulièrement l'histoire?
C'est le temps qui passe. C'était une manière pour nous de créer des ellipses qui soient agréables à regarder et en même temps du temps qui passe. Ça nous permettait aussi de traiter plusieurs situations ou plusieurs lieux en même temps. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une image qui était à Montréal et puis l'image d'après, il y avait une image où il y avait, je sais pas, des gens qui abouraient leur champ, et puis on revenait à Montréal, et puis ainsi de suite, comme ça. Donc ça permettait de faire des situations parallèles, et d'amener des dialogues qui pouvaient être à cheval sur les 2 images. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus de queue de but, il y avait simplement des buts sans queue, et qui étaient à cheval sur les images, qui permettaient de lire, d'avoir une continuité de dialogue, sans pour cela dire qui parle, quoi. À savoir que, juste un petit peu avant, on savait que, par exemple, c'était un discours de Marie ou de Serge, et pendant qu'ils parlaient, on faisait défiler des images qui n'avaient rien à voir avec le lieu où ils parlaient. Enfin, je sais pas, j'étais clair, non, je sais pas, j'étais très clair, j'ai l'impression.
Ce qu'on peut dire, c'est que la gestion du temps, enfin le temps et la gestion du temps, c'est un élément essentiel de Magasin Général. Toute l'histoire est traitée par séquences, donc c'est des petites séquences fermées comme ça. Et entre chacune de ces séquences, le temps qui s'écoule peut être extrêmement différent et les lieux peuvent être aussi différents. Et donc le fait d'utiliser ce qu'on appelle des gaufriers, on comprend pourquoi, ça forme une gaufre, ça donne, par la symétrie et la régularité de la composition, ça calme tout de suite, ça donne quelque chose de valeur égale dans chaque case, et ça c'est quelque chose qui ralentit à chaque fois le temps, et donc ça nous a permis soit de ralentir le temps entre 2 séquences, soit de, quand c'était des récits parallèles, de donner la même valeur à chacune des parties du récit. Voilà. Et donc, comme disait Régis, en croisant les bulles, par exemple, voilà. Mais c'est un peu l'équivalent au cinéma de ces images où on voit justement, si on a besoin d'avoir le temps qui passe comme ça, d'avoir des espèces de petites images enchaînées comme ça, des fondus enchaînés de paysages, de campagne, voilà.
D'autres qui tombent, d'ailleurs, les premiers flocons qui tombent,
voilà, c'est ça.
Et la neige, ensuite. Ouais. C'est assez cinématographique,
hein, ouais. Cette histoire. Et ça, on l'a fait depuis le début. Hein. Dès le début, on a toujours eu recours à ce procédé.
Bonsoir. Est-ce que sur ces 9 ans, ou au moins sur l'ensemble de l'histoire, vous avez eu des regrets, des personnages, des thèmes, des situations que vous avez finalement pas pu aborder ou rejeter?
Globalement, non.
On l'a beaucoup fait, mais on n'a pas eu de regrets.
Non, mais il y a plein de scènes, de séquences, ou de pistes qu'on n'a pas explorées, ben oui.
Ouais, mais peut-être pas essentiellement.
Non, mais justement, c'est pas essentiel, mais on en a éliminé. Voilà. Il y avait des, je me rappelle qu'on voulait faire un cabaret, on voulait déplacer une maison.
Non, mais je dis pas que c'était une bonne idée, je dis qu'on l'a eu.
Non, genre, c'était une bonne idée. Je te jure, tu sais bien.
Ah, mais je vais dire une connerie, mais.
Ouais.
Donc, oui, non, il y a eu des choses comme ça. Des pistes qu'on n'a pas exploitées, oui, c'est ça, il y a eu pas mal de donc certaines qu'on a pensées pendant un moment exploitées, et puis et on n'a pas de regret de ne pas l'avoir fait, mais vraiment pas de regret. Je pense qu'il n'y a pas de... On n'a pas beaucoup de regrets en fait.
comme disait Jean-Louis tout à l'heure, on a été un petit peu dépassé par le sujet, et vraiment on a été nous-mêmes surpris parce que on a été encore plus loin que ce qu'on pensait aller, ou aller du moins. Et donc c'est vrai que à ce niveau-là, on n'a rien à se reprocher. On a été au bout de notre bout, et en plus de ça, je crois qu'on a été encore plus loin que ce qu'on rêvait. Hein.
Oui,
on
n'aura pas de suite alors.
Absolument pas. Mais non, l'histoire est finie. Pourquoi faire du ressuscé avec quelque chose qui est terminé? Donc là, c'est vraiment tirer sur la corde. Et puis, je pense que c'est pas utile. C'est tellement, c'est à vous de faire le voyage maintenant. Et surtout à travers cette autre photo qu'on voit à la fin, qui vraiment nous amène une petite note nostalgique sur ce qu'a été le village et ce qu'il est et ce qu'il deviendra.
Moi, j'ai toujours eu l'impression que ce village existait, pendant ces 9 ans, chaque fois que je me mettais à travailler le matin, j'avais l'impression vraiment de rentrer dans le dessin qui est dans les pages de garde de l'album, hein, comme ça, c'est ce grand dessin que Régis a fait sur le mur de l'atelier. Et j'avais l'impression de rentrer là-dedans, et puis que voilà, je passais la journée avec eux, et puis que le soir, je ressortais, qu'ils continuaient en vie. Donc en fait, cet album de photos qui est à la fin, il va dans ce sens-là. Il va dans le sens de, nous, on se retire. Mais eux, ils continuent à vivre leur vie, puisque ça, quand même, ça continue pendant 8 ans après la fin de l'album photo, continue pendant 8 ans après la fin de l'histoire elle-même. Voilà. Mais comme le disait Régis, ce qui est intéressant pour nous, c'est de montrer le moment de la vie de ce village où il se passe quelque chose d'incroyable, quoi. Parce que, voilà, c'est une espèce de révolution personnelle. Pour parler une seconde du fond de manière générale, c'est un roman de l'émancipation. Donc, ce qu'on a raconté, c'est l'émancipation d'un village qui se fait dans la foulée, entraînée en quelque sorte par une locomotive qui est Marie. C'est-à-dire par l'émancipation d'une personne centrale dans le village va avoir des conséquences sur tout le village. Un peu comme si vous prenez un panier avec des petits chats, là, des chatons dedans, si celui du milieu veut bouger, tous les autres sont obligés de s'adapter. Alors, au début, c'est pas très confortable, ça rouspète un peu, puis après, chacun trouve une autre, nouvelle position, et puis là, après, il peut... Ouais. Donc, c'est un peu ça. Alors, effectivement, on a mis un petit peu le schéma de la Révolution tranquille. Alors, la Révolution tranquille, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Québec, c'est une chose qui s'est passée dans les années 60, fin des années 60, vers 67, 68. Les Québécois vivaient dans un régime politique très conservateur et sous une emprise de l'Église catholique qui était vraiment extrêmement prégnante. Pour vous rendre compte, c'était une époque où les curés faisaient tous les jours la tournée de toutes les fermes, la tournée de toutes les fermes pour voir si les femmes étaient enceintes et pour vérifier qu'on n'était pas en train de faire de la contraception sauvage, quoi. Donc c'était vraiment ça. Et dans les années 60, ils en ont eu marre de ça, et ils se sont rendus compte que s'ils arrêtaient juste d'aller à l'église, le pouvoir qui était accordé au curé allait tomber de lui-même. Voilà, c'est exactement ça qui s'est passé. Sauf que nous, dans notre histoire, c'est le curé lui-même qui amorce ça, mais bon, il est très complice en tous les cas.
Bon, voilà. Eh ben merci Régis, Jean-Louis, Patrick, tout le monde.
Et à tous les jours, merci.